Vous êtes bien au Transversal et je retrouve ce matin pour le deuxième volet de la semaine mes deux invités, Virginie Aymon et Jérémy Béchon de la compagnie Manifeste Rien, à propos de leur spectacle qui sera sur la scène du Théâtre de l'Œuvre les 13, 14 et 15 février à 20h, c'est-à-dire dès demain. Une histoire universelle de Marseille adaptée du livre éponyme d'Alexis Dell'Umbria. Et je cite, transposé dans une mise en scène fulgurante et tout public, les 792 pages de cette ambitieuse fresque mobilisent 1000 ans d'histoire locale, politique, urbaine, sociale, culturelle et linguistique. Virginie Aymon, c'est vous qui portez ce spectacle sur la scène du Théâtre de l'Œuvre. Une fois de plus, vous êtes seule en scène et c'est vous, encore une fois, qui incarnez à la fois tous les personnages de cette histoire, l'histoire. Et l'histoire avec un grand H également.
C'est ça. C'est moi qui vais transporter les spectateurs. Voilà. Enfin, je vais essayer.
Alors, je lis encore. La comédienne interprète avec humour et panache les protagonistes de différentes époques, Henri IV, Louis XIV, Robespierre, mais aussi les troubadours, les poissonnières, les prisonniers. Une adaptation faite de trahison, de poésie et d'émeute. 1000 ans d'histoire pour une comédienne sur un plateau nu. Tel est le défi. Virginie Aymon,
oui.
Que voulez-vous nous en dire?
C'est-à-dire, comment on fait ça?
Oui, comment on fait? Comment on fait les accents? Comment on... Enfin, et puis seul sur scène pendant une heure, vous tenez tout.
En fait, c'est ce qu'apporte un peu aussi l'histoire dans les bouquins d'histoire comme celui-là, notamment. On relate des actions, il y a des dates, il y a des actions, il y a des personnages et il y a des témoignages. Et tout ça, moi, en tant que comédienne, en fait, je le prends comme autant de personnalités. Donc, c'est vrai que derrière chaque témoignage et derrière chaque fait historique, en fait, j'imagine comment ça devait se passer à l'époque, comment étaient les rues, quelle était la classe sociale de la personne là qui est en train de témoigner, de quel quartier il était, donc comment il parlait, comment il bougeait. Et tout ça, en plus, ça permet justement de faire des raccourcis, un peu comme ce que je disais hier, par rapport au livre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être jouées directement. Mais voilà, et tout ça, je m'en sers pour rendre vivant et faire vivre aux spectateurs ce qui se passait de manière populaire dans la ville. Et alors, évidemment... On est au théâtre, donc moi j'utilise de toutes les techniques qu'on peut trouver dans le théâtre populaire, notamment la comédie dell'arte, mais aussi des techniques des fois de stand-up, c'est l'acteur je dis l'acteur et pas seulement moi, parce que c'est vraiment le travail qu'on fait dans la compagnie Manifeste Rien. C'est pas toujours des solos et je suis pas toujours seule sur scène dans ce qu'on fait dans le collectif, mais on a toujours cette esthétique en fait de plateau nu, quasiment tout le temps nu.
Donc sans décor, pour oui. Un plateau nu, notre jargon, c'est...
Ça veut dire qu'il n'y a pas de décor du tout.
Mais c'est ça qui est
alors ça arrive qu'il y ait une chaise, voilà, mais c'est tout. Et en fait, ça permet de libérer, alors c'est pas mal de boulot hein, quand même, mais de libérer la créativité de l'acteur. Donc c'est l'acteur qui va devoir faire le décor, donc jouer le décor en même temps qu'il joue les personnages en même temps. Donc forcément, on va travailler sur le stéréotype, sur la caricature, avec des techniques finalement de mime aussi hein, il y a un peu tout ça qui se mélange. Après, c'est vrai que moi j'ai tendance à mélanger les différentes techniques sans trop faire de séparation entre ce qui doit se faire correctement parce qu'il y a des codes, tout ça. Je prends et j'en fais ma sauce. Et pour les accents aussi. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est vrai que les personnages, je les crée aussi en imaginant les accents. Là, par exemple, on est sur l'histoire universelle de Marseille. Et moi, je suis, en tant que Marseillaise, je suis bien obligée de constater que l'accent n'est pas le même pour une femme qui habite Castellane, que pour une femme qui habite au Panier, que pour un homme qui travaille sur le Vieux-Port. Voilà, il y a vraiment des accents, des gouailles différentes. et qui vont aussi avec un corps différent.
C'est ce que j'allais vous dire.
Voilà. Et donc, je travaille là-dessus, effectivement.
Jérémy Béchon, vous lui renvoyez, comment vous l'aidez, j'imagine, ou bien c'est elle qui se débrouille, c'est Virginie Hemon qui se débrouille toute seule dans son coin, ou bien vous
l'aidez? Non, jamais dans mon coin.
Jamais, hein. Jérémy Béchon,
le metteur en
comment
scène,
vous abordez les choses?
Le metteur en scène, c'est toujours le premier spectateur du comédien ou de la comédienne. Donc, d'abord, moi, je garde tout ce qui me fait rire. Et très souvent, ça désarçonne un peu les comédiens ou comédiennes, puisqu'il arrive que lors d'improvisations particulièrement burlesques, dont ils ne pensent pas que ça va rester dans la trame, et je le garde, et la répétition d'après, je leur fais refaire ce qui leur semblait insignifiant ou anecdotique. Et c'est très souvent ce rapport-là de l'anecdotique qui déclenche le rire, et le rire permet de détendre complètement la pensée et le cerveau, et du coup les informations historiques beaucoup plus dialectiques, beaucoup plus complexes, pénètrent mieux le spectateur. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me fait marrer ou qui me donne une émotion dramatique, je le garde dans le spectacle, parfois même au détriment de la connaissance historique, puisque de toute façon la connaissance historique c'est la base, donc elle passera quand même, mais il s'agit de trouver tout ce hors-champ dont parlait Virginie et de laisser la place à l'imagination du spectateur, puisque comme elle disait, si on est sur un plateau nu, donc elle joue le décor comme elle disait, mais elle va pas mimer dans une rue absolument tout ce qu'il y a. Si c'est la période contemporaine, elle va pas faire la voiture, elle va pas faire le policier, le mendiant, le passant. Elle va par contre esquisser chacun de ces personnages là et ensuite une fois que le spectateur les a dans la tête, il continue à vivre dans cette rue-là. Donc en fait, c'est un jeu, elle interprète différents personnages qui continuent à vivre dans l'imaginaire du spectateur. Et il s'agit de trouver déjà cette osmose, cette utopie-là entre nous deux, entre nous trois avec le régisseur, pour ensuite la partager avec les différents publics.
Est-ce que vous voulez nous lire ou nous dire un extrait de ce spectacle ? Virginie
oui, Hemon. Bah oui, je veux bien.
Vous voulez bien, on vous écoute.
Voilà, donc c'est une deuxième partie du début du spectacle. François Ier fixe, avec l'édit de Joinville, les nouvelles règles des pouvoirs locaux. Et commence ainsi l'intégration de la Provence, hein, qui passe par la désintégration de sa vie culturelle et politique. 4 ans plus tard, François Ier impose avec l'édit de Villiers-Cotterêts l'usage exclusif du français dans tout le royaume. Ceci dit, 50 ans plus tard, le premier livre publié à Marseille est celui d'un prisonnier occitan qui rime en provençal. Et cela fut possible grâce à un homme. Un homme qui incarna l'esprit de la République de Marseille. Un homme qui s'identifia au destin de sa ville et le plaça au-dessus de tout intérêt personnel. Charles de Cazaux, avec ce ligueur radical, hein, non, je veux dire radical de chez radical, hein, la ville renoue avec le système mis en place par le corps des saints chefs de métier du XIIIe siècle. Mais il le paya le prix fort. Alors que Charles de Cazaux n'avait jamais réussi à réunir les 10 000 écus nécessaires pour obtenir la place de premier consul de Marseille, hein, eh bien, il finit tout de même par être élu premier consul de Marseille en 1591. Mais ce fut une véritable révolution, ça, hein, parmi l'élite du négoce marseillais. Sans compter que son second était l'ancien forçat Louis d'Aix, devenu viguier de Marseille. Hein. Non, place autrefois obtenue par la noblesse d'épée. Hein. Et alors, j'étais moi-même épaulé par mon cousin, Pierrot. Pierrot Baglione. Quoi ? Ligueur des premières heures, attention, hein. Sur le consulat de Charlie, Monsieur de Cazaux, ouais, il n'y a que moi qui l'appelle Charlie. Sous son consulat, donc, on a fait agrandir l'hôtel Dieu comme ça. Vous le voyez, l'hôtel Dieu? Oui, lui qui a été construit au panier, là, sous l'ancienne République de Marseille, là. Bon. Eh bien, nous, c'était pour accueillir les malades. Eh bien, nous, on l'a fait agrandir comme ça. Oh, c'est comment on a fait? On a organisé une petite collecte parmi l'élite du négoce marseillais. Et puis on a rétabli le grenier à sel aussi. Alors, pour que la ville ait plus besoin de payer la gabelle royale à Starnac. Là. Et on a fait venir du blé aussi. Et on l'a redistribué à bas prix pour que les accapareurs, ces vautours là, ils fassent plus la loi sur le marché marseillais. Non, mais attends. Voilà. Oui.
Ah, mais moi, j'aurais continué à écouter.
Il faut venir le 14 et 15 février.
Jérémy Béchon, vous aviez envie de dire quelque chose?
Non, là, ce qui est intéressant avec cet extrait-là, c'est que par exemple, moi à l'école, j'avais jamais compris ce qu'était l'idée de Joinville ou l'idée de Villers-Cotterêts. Pourtant, on a essayé de me le faire rentrer dans tous les sens, c'est jamais rentré. Là, on comprend bien, c'est la perte d'une indépendance d'une ville, la perte d'une langue et l'imposition de nouveaux impôts. Et pourtant, je pense qu'à l'époque, j'aurais pu le comprendre beaucoup plus vite. Donc, il s'agit de transmettre justement l'histoire de manière différente et de voir aussi comment cette histoire-là, là par exemple, on est sous la République de Charles de Cazaux, dont certains ont dit que c'était un dictateur. Alors, c'était la dictature du prolétariat, à ce sens-là, puisque c'est un communisme premier qui met en place. Et on voit avec l'Hôtel Dieu, qui est devenu un palace aujourd'hui pour bien portant du porte-monnaie, comment il a été bâti et créé pour des gens qui pensaient à soigner les plus démunis. Et cette histoire-là, du coup, qui passe en 1591 à 1595, où il va être assassiné par Henri de Navarre, on voit que cette histoire-là, on la passe tous les jours quand on va passer au Vieux-Port et qu'on voit ce palace qui n'est plus pour les Marseillais. Et on voit que cette lutte-là, elle est très ancienne. Voilà, c'est ce jeu-là d'aller-retour, de mieux comprendre des choses qui nous ont semblé abstraites dans les livres d'histoire classiques, et puis de mieux comprendre encore pourquoi ce décor-là ne nous va pas.
Vous êtes devenu incollable sur l'histoire de Marseille, non?
Pas incollable, mais...
En tout cas, on en apprend des choses.
Là, on apprend pas mal de choses quand même, ne serait-ce que dans la pièce, oui. Oui, ça c'est sûr.
Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous vous inscrivez, Jérémy, je vous laisse finir de tousser, est-ce que vous vous inscrivez dans une certaine filiation, vous, dans votre travail de metteur en scène? Et si oui, laquelle?
Oui, à une filiation du théâtre et de l'éducation populaire. C'est très ancien, hein, comme principe, je crois. Après, de nombreux auteurs ont fait ça, mais ils ont été passés de mode, d'une part, et puis ensuite, l'éducation populaire a parfois été mal entendue. C'est-à-dire que moi, j'ai une conception du théâtre et de l'éducation populaire qui n'est pas d'aller éduquer le peuple en portant la bonne parole, mais de montrer en quoi les cultures populaires, comme là, par exemple, des histoires oubliées telles que celle d'un ancien prisonnier, Louis Dex. Il faut savoir que c'était un forçat qui devient chef de la ville. Donc, un prisonnier qui arrive à tenir les rênes d'une ville et à imposer un système qui soit plus égalitaire. Ça fait partie des cultures populaires. Comment des chansons de troubadours peuvent encore nous en apprendre autant que certains livres universitaire, et comment ces chansons-là de troubadours sont aujourd'hui encore portées par des gens comme les Massilia Sound System, par exemple. C'est cette conception de l'éducation populaire dans laquelle je m'inscris. On n'est pas les premiers à avoir fait ça.
Alors, vous aviez choisi une chanson. C'est laquelle? Vous vous souvenez ou pas?
Sur Bernard Lavilliers, peut-être, c'était, oui. Ou c'était le Massilia, je ne sais plus.
Bernard Lavilliers.
Sur Bernard Lavilliers, oui, c'est une chanson.
Vous allez nous dire pourquoi ce choix, et puis on terminera pour aujourd'hui avant de se retrouver demain matin. Je vous laisse la parole, Jérémy Béchon.
Elle s'appelle Charleroi.
Charleroi, oui, et c'est pareillement la semaine dernière, c'était pour faire
hier.
On répète le soir, du coup on est un peu décalé.
Oui, non, mais c'est pas grave, on sait que cette émission est enregistrée en même temps.
C'était tu m'as perturbé, là. J'ai bien prévu mon time code. Non, je rigole. C'était faire entendre simplement que l'émotion qu'a Lavilliers face à sa ville qui est détruite, c'est la même que nous on a par rapport à Marseille. Et ceux qui détruisent ces villes-là, c'est un système économique qui est en train de massacrer le plus grand nombre. Et c'est ça, cette émotion-là, et c'est en ça que l'histoire universelle de Marseille porte cette universalité-là. C'est que c'est pas seulement l'histoire de Marseille, c'est l'histoire des peuples qui ont perdu leur propre mémoire, qui ont perdu leur culture prolétaire, qui ont perdu leurs racines de double culture, qui est porté sur scène comme Lavilliers peut le porter en musique avec sa propre ville.
Donc on écoute et je vous dis à demain matin.
À demain.
Merci.
J'ai vu ma ville comme je te vois. J'ai vu ma ville partir en vrille. J'ai vu ma ville partir en friche. J'ai vu ma ville comme je te vois. Même si je sais que tu t'en fiches, que c'est pas ta ville à la finale, que je ferais mieux de me faire la main. Même si je sais que tu t'en fiches, je vois ma ville porte clouée, maison à vendre abandonnée, les canapés sur le trottoir, où quelques vieux viennent s'asseoir. Je sens ma ville comme un amant, trompé par un riche imbécile. Je sens ma ville comme un aimant, ça me rend fou, presque débile. Y'a la mort qui nous fait du charme, et puis ils ont sorti les armes. Les armes. Je traverse ma ville à perdre haleine, j'ai l'impression qu'elle raccourcit, que l'amour rôde sans merci. Est-ce de l'amour ou de la haine? Les enfants jouent à se braquer, les écoles à des kilomètres. On comprend mieux pourquoi les maîtres ne fréquentent plus nos quartiers. Une jolie fille, un mur en briques, des kilomètres de voies ferrées. Les rues ne sont plus éclairées, rien d'autre à faire que du trafic. Je vois ma ville comme un amant, trompé par un riche imbécile. Je vois ma ville comme un aimant, ça me rend fou, presque débile. Y'a la mort qui nous fait du charme, et puis ils ont sorti les armes. J'entends parler la Calabre, de Palerme et de Napoli. Brûle nos yeux verts sous le ciel gris, et la démarche qui se cabre. La Méditerranée est là, glacée dans son cadre de fer.